Et ben voilà, on m'a remis une chaîne. Hmm ? Il n'y a pas de fil, mais il faut quand même tenir. Bien, aujourd'hui, j'ai un message à vous apporter dans Matthieu 13. Vous connaissez cette parabole, souvent on l'a lue, et c'est surtout, j'ai deux versets qui vont me sortir. Je commencerai à partir du verset 4. Mais avant, je vais remettre cette lecture, Seigneur, parce que nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin d'être conduits par ton esprit, nous avons besoin d'avoir une révélation nouvelle de ta parole, Seigneur, encore ce matin, dans le beau nom de Jésus. Amen. Donc le verset 4, il nous parle d'un semeur qui sortit pour semer. Comme il semait, quelques grains tombèrent le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent le long d'un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas de terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans une terre bonne. Ils donnèrent du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et qu'à eux cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et on sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Et après, Jésus va expliquer cette parabole. Il vous a été, mais c'est le verset 11 qui m'intéresse, la parabole, vous la connaissez, on en a souvent parlé, mais le verset 11, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Il vous a été donné de connaître les mystères, mais pas tous. Cette parabole a été donnée à tout un tas de gens, toute une foule, mais seulement les disciples vont avoir la réponse. Seulement Jésus va leur parler, va leur faire connaître. Mais aujourd'hui aussi, le Seigneur veut nous faire connaître. Mais il est dit toujours la même chose, mais pas à tous, pas à tout le monde, mais à vous. Le Seigneur veut vous faire connaître ces choses. Il en va de même dans l'Église. Dieu parle et il se passe quelque chose. Vous êtes là tous ce matin. Et vous avez entendu les paroles, vous allez entendre encore les paroles du Seigneur, les paroles que je vais lire de la Bible. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on retient ces paroles? Il y a trois possibilités. Vous avez entendu, bien sûr, la plupart vous entendez, mais est-ce qu'on retient ces paroles? Est-ce que l'on passe à côté de ces paroles? Pire, on peut même rire de ces paroles. Oui, parce qu'on... Aujourd'hui, il est toujours bon de dire « Ah tiens, il a encore fait un lapsus, je me suis trompé de prénom et tu comprendras tout à l'heure pourquoi. » Je ne l'ai pas fait exprès, hein, encore une fois, mais j'en reparlerai. Et pour comprendre ce que je voulais vous expliquer ce matin, je vais vous dire, voilà, il y a très longtemps, on était jeunes chrétiens, on peut dire, c'était la première église où j'étais, donc je ne vous dis pas, ça remonte à un certain nombre d'années, et dans cette église, on avait un jeune. Un jeune un peu farfelu, un peu... Vous savez que des fois que les jeunes, on les regarde, oui, c'est des jeunes, ouais, bon. Et ce jeune est parti de l'église pour un temps, et puis un jour, ce jeune revient dans l'église, et quand il est dans l'église, il dit, j'ai une parole à porter, et il apporte cette parole, et... Déjà à l'époque, peut-être que le Saint-Esprit me cherchait, mais j'ai entendu cette parole. Je ne vous dirai pas ce que c'était, je ne me souviens plus de ce que c'était que cette parole. Mais ce jeune, sûrement, il avait dû quitter une autre église, qui était une église baptiste toute simple. Il était dans une église charismatique et il avait reçu les dons du Saint-Esprit. Et c'était une parole qui venait du Seigneur. Et quand j'ai entendu cette parole, moi, ça m'a fait « Waouh ! » Le Seigneur a parlé. J'ai entendu au travers de cette parole du jeune, je n'ai pas vu que c'était un jeune, qu'il était comme ci ou comme ça. Non, j'ai entendu que vraiment le Seigneur parlait. Mais dans cette église, qui était une église, waouh, attention, c'était tous les profs de l'Institut biblique, des gens qui avaient des doctorats, des gens qui connaissaient la parole sur le bout des doigts, qui connaissaient tout, mais qui étaient fermés au Saint-Esprit. Et ils ont rigolé, parce qu'ils ont dit, c'est le facteur, c'est le petit facteur, c'est marrant ce qu'il a dit. Mais ils n'ont pas retenu cette parole. Et c'était une erreur, parce que l'Institut biblique n'existe plus, ils sont tous, et puis je ne vous dirai pas tout ce qui s'est passé, mais il ne s'est pas passé de bonnes choses, ni pour l'Église, ni pour... Nous avons quitté cette Église, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte qu'il était fermé l'esprit. Donc on doit être attentif au Saint-Esprit, parce qu'il est comme une colombe, il parle, mais il ne va pas crier, il ne va pas taper avec un marteau, il ne va pas vous enfoncer comme un clou une parole, il va la dire simplement. Et elle peut passer, et on ne l'entend pas, on passe à côté d'une bénédiction. La deuxième chose, pour vous rappeler un peu ça, vous savez qu'il y a eu un mariage, il n'y a pas très longtemps, et j'étais chargé de faire l'accueil, l'introduction, et j'ai raconté une petite histoire. Et comme ça m'arrive souvent, j'ai fait un lapsus. J'ai bien parlé de Ford, et tout le monde s'est rigolé parce qu'il a dit, tiens, il a parlé de John Ford en parlant des voitures. Mais non, c'était Henry Ford. Et là, c'est encore la même chose. On est dans ce texte où on peut en rire. Effectivement, je me suis trompé de prénom. On peut dire, c'est la seule chose qui va avoir resté de ce que j'ai dit, ou c'est la phrase clé qui était toute importante. Ah oui, mais au fait, c'est vrai que beaucoup n'étaient pas au mariage. Alors, je vais rappeler en quelques mots cette histoire. Je vais résumer. Donc, c'est une petite histoire aussi, c'est l'histoire d'une femme qui tombe en panne. C'est une femme moderne, parce que c'est une femme du siècle dernier, du début du siècle dernier. Elle est dans sa Ford T, la fameuse Ford, la première voiture qui a été fabriquée à la chaîne, la première voiture industrielle, on pourrait dire, qui a été créée par, pas John Ford, mais justement Henry Ford. Et cette femme tombe en panne sur le bord de la route et... elle est démunie, elle est là. Et puis s'arrête un automobiliste qui, à son tour, vient voir cette femme et puis dit vous êtes en panne. Il dit je vais regarder votre voiture. La femme inquiète. Vous pensez toucher une voiture à l'époque. Est-ce que vous vous y connaissez? Et l'homme, avec un grand sourire, mais madame, je suis le créateur de cette voiture. Et la phrase que j'avais prise, moi, pour résumer cela, et je dis Dieu, lui, il est le créateur du bonheur, du vrai bonheur, puisqu'on parlait de mariage. Le mariage, c'est Dieu qui a créé le mariage et qui a créé le bonheur. Et la phrase clé, c'est Dieu est créateur de bonheur. Alors il y a ceux qui ont regardé seulement en disant « Ah, ils sont encore trompés dans le prénom », et il y a ceux qui ont entendu « Dieu est créateur de vrai bonheur ». Alléluia. Alors il faut faire attention à cela, parce que des fois, bien sûr, dans un message, on ne peut pas tout retenir, on ne peut pas tout entendre, mais des fois, il y a une petite phrase, c'est la phrase clé, le mot clé qu'on va regarder. Vous savez, je crois que si je demandais à chacun, un jour, le Seigneur vous a parlé, un jour, le Seigneur vous a touché. Moi, je m'en souviens encore. Moi, j'étais dur. J'étais un peu anglais d'un côté, mais en plus, breton de l'autre. Breton et grand-breton, je ne vous dis pas, têtu. Si heureusement personne ne m'a connu jeune, parce qu'il aurait dit celui-là, c'est pas possible. Mais il a fallu qu'il frappe fort. Un jour, dans une réunion, le Seigneur, et puis j'étais là juste pour dire, comme ça, en passant, mais j'y croyais pas du tout. Et le Seigneur, il a dit, toi là, aujourd'hui, si t'es pas pour moi, t'es contre moi. Ah. Alors j'étais pas pour Dieu, mais je voulais pas être contre lui, parce que je me disais, quand même, il peut peut-être exister. Et ce jour-là, j'ai fait le choix. Mais c'est des paroles, vous recevez des paroles comme ça, toute votre vie, toute ma vie, cette parole restera. Celui qui n'est pas pour moi est contre moi, celui qui n'assemble pas disperse. Ça a changé toute ma vie. Jésus est rentré dans ma vie ce jour-là. Et ma vie a été transformée. Nous revenons au texte qui nous intéresse aujourd'hui, parce que le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 7. D'autres tombèrent parmi les épines et les épines montèrent et l'étouffèrent. Qu'est-ce que sont les épines ? Les épines, c'est quelque chose de vraiment mauvais. C'est quelque chose qui n'a qu'un but. Les épines sont là pour étouffer, pour détruire, pour faire mal. Attaquez-vous à un champ de ronces et d'épines, vous allez voir que vous n'allez pas en ressortir. Même si vous avez mis des bons vêtements, vous avez pris des paires de gants, vous allez être griffé, vous allez saigner. C'est pas bon. Les épines sont là pour étouffer. Les ronces et les épines, leur but, c'est de détruire, d'envahir, de coloniser. Plus rien ne pousse. Vous savez, vous allez voir en Corse, le maquis, quand on parle du maquis en Corse, c'est des endroits, eh bien, on ne se balade pas. Même ici, vous avez des endroits, moi je vois promener le lac qui est à Persan, là il y a un petit lac à Persan, il y a un endroit où les épines ont envahi tout le fond du parc, d'ailleurs ils ne passent même plus les machines pour nettoyer, ils y font attention, et eh bien on ne peut plus passer, ça devient une haie où on ne passe pas à travers. Si sur le bord d'un chemin vous avez des épines, vous voyez un chemin où il y a des épines, vous repassez un an ou deux après, il n'y a plus de chemin, on ne passe plus. À moins que ça soit nettoyé, bien sûr. Mais ça repousse. Les épines sont là pour détruire, sont là pour étouffer. On ne passe plus. Les chemins sont impraticables. C'est dur de s'en débarrasser. C'est agressif, ça attaque, ça fait plein de choses mauvaises. Dans Marc 4, verset 7, on nous parle encore des épines, on nous reparle de ce texte. Une autre partie tomba dans les épines montèrent, l'étouffèrent et donna point de fruits. Le but des épines, c'est d'empêcher qu'il y ait des fruits. Et nous sommes appelés à porter des fruits. Nous sommes appelés à porter des fruits. Et les épines, les ronces, eh bien, c'est tout ce qui nous entoure, tout dans ce monde, qui va nous empêcher d'avancer, de gagner, qui va nous étouffer, qui va nous dire non. Attention, bouge pas. Vous savez, les épines, il y a des textes comme ça qui sont là pour faire voir cela. Les épines sont ce que le monde veut nous faire. Ce que Satan, parce que c'est Satan en fait, hein, qui est là derrière, pour nous faire cela. Les épines sont là et nous étouffent. Nous empêchent d'être dans la liberté. Nous empêchent d'annoncer l'évangile. Ouais. Est-ce que vous avez jamais été empêché d'annoncer l'évangile? Est-ce que vous avez vu quelqu'un dans la rue et vous n'avez pas osé lui parler? Peur d'être ridicule. Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un qui est là qui, et puis vous devenez timide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade, qui est souffrant, il dit, ben tiens, je vais aller prier pour toi. Et vous ne le faites pas parce que vous avez peur que ça ne marche pas. Et que si ça ne marche pas, que vous allez passer pour un rigolo, pour quelqu'un de ridicule. Tout ça, ce sont les ronces et les épines, le monde qui veut nous empêcher d'amener Jésus. Nous empêcher d'être dans la victoire. Vous savez, les ronces et les épines recouvrent les buissons, les écrasent, les étouffent, les font mourir. Quand vous avez un champ d'épines et de ronces, il n'y a plus rien qui pousse en dessous. Dans Luc, ça et tout, ça fait que ces épines nous empêchent d'avoir de la puissance, de l'efficacité, nous laissent sans force, sans rien. Dans Luc 6, on reparle aussi de là. Luc 6. Luc 6, versets 43 et 44. Il n'y a pas de bons arbres qui ne produisent de mauvais fruits, ni de mauvais arbres qui produisent de bons fruits. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Il n'y a pas de bons arbres qui ne produisent du mauvais fruit. Nous sommes amenés à produire des fruits. Nous sommes amenés à être des gens. On dit fructueux, une affaire fructueuse. On parle toujours de fruits. Nous devons produire des fruits. Alors vous allez me dire aussi, attention, qu'est-ce que c'est que les fruits? Eh bien, il y en a qu'on peut produire facilement, des fruits. C'est-à-dire, bien sûr, quand vous pensez amener des fruits, vous pensez amener d'autres personnes à Christ. Vous pensez à vos amis, à vos collègues de travail, à vos relations, à vos enfants. À commencer par votre famille, par les parents, par les grands-parents, par les enfants, par les petits-enfants, à les amener à connaître Jésus. Ça, ce sont des fruits, effectivement. Amener quelqu'un à Christ, c'est quelque chose de beau. Mais il y a d'autres fruits qu'on trouve, et vous les connaissez, mais on va les lire quand même. C'est les fruits qui sont dans Galates. Galates 5. Galates 5, 22 à 25. Oh, coucou, Galates. Galates 5, verset 1. Non, j'ai fait une erreur là. Galates 5, 22, 25. Ah, je préfère. Oui, parce que les versets de 19 à 21, vous ne les lisez pas. Enfin, j'espère, ils ne vous concernent pas. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, blablabla. Ça, vous ne les lisez pas, ça ne concerne pas les chrétiens, c'est ce qu'on ne doit pas pratiquer. Mais par contre, les œuvres qu'on doit faire, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, les maîtrises de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Mais les fruits de l'esprit, ça, c'est des fruits que tout le monde doit porter. Je pense que quand on devient chrétien, on doit avoir l'amour. Waouh ! La Bible nous dit qu'à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, le monde verra. Je vais être méchant, je vais être dur. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'amour dans l'Église ? Plus personne, parce qu'il dit, oh là, il a un piège, je ne vais plus rien dire. Ben, je vais vous poser une question toute simple. Je ne vous mène pas de lever la main, surtout pas, mais d'y réfléchir. On vient de passer toute une saison agréable d'été. De juin à fin septembre, quasiment, il a fait très beau, très chaud. On a eu des belles soirées, on a eu des bons moments. Combien de personnes de l'Église avez-vous invitées à un pique-nique chez vous, à un apéritif chez vous, à recevoir un frère, une sœur? Là aussi, c'est un peu comme le texte de tout à l'heure. Vous savez, réfléchissez-vous, examinez-vous ce que disait. Considérez votre vie pendant quelques minutes. La vie que nous avons passée il y a quelques mois, qui avez-vous invité de l'Église? Alors, je ne vous demande pas de répondre, mais réfléchissez. Est-ce que dans ces quatre mois qu'on a passés, on n'a pas pu trouver un moment pour prendre un apéritif avec Pierre, Paul ou Jacques? Vous savez, dans la Bible, il est dit un moment, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'avais soif, vous m'avez... Et Jésus va dire, mais à qui? Les disciples vont dire, mais de qui il parle? De qui il parle? Le plus petit. Il est parlé justement du plus petit. Moi, il y a quelque chose, je dois vous demander pardon, c'est vrai, parce que là, le mois de septembre a été catastrophique. Pendant trois dimanches de suite, ma belle-mère, on a vu arriver les pompiers, on a vu arriver le SAMU, elle est partie à l'hôpital. Sur tout le mois de septembre, quasiment, on a dû l'avoir six jours à la maison, le reste du temps, elle était à l'hôpital. Donc c'est vrai que ça nous a pas mal occupés, et j'ai délaissé un peu l'église, c'est vrai. On aurait pu inviter des personnes, mais là, c'est vrai qu'on était un peu saturés. Mais tout le monde n'a pas eu ce problème, j'espère. Mais gloire à Dieu, ma belle-mère va mieux, l'opération avait réussi, la santé est revenue, elle est en pleine forme. Et je dis gloire à Dieu. Mais c'est vrai que pendant le mois de septembre, on était pas mal occupés. Mais je pense que tout le monde n'a pas eu ce cas. Et il y a encore le plus petit, je reviens plus petit peut-être. Le plus petit. Moi je connais un plus petit, il était tout là-bas au fond. Il y a dimanche dernier, hein, quand on a eu la Sainte Cène, quand on a fait la Sainte Cène, cet homme qui était venu à la maison, ce voyageur, cet homme qui fait partie des gens du voyage, mais qui avait vraiment ce désir de prendre le repas du Seigneur. Il était même venu chez moi frapper, il me dit, c'est bien demain dimanche qu'il y aura un repas, la Sainte Cène. Oui, et il est venu avec la joie de pouvoir prendre la Sainte Cène avec vous. Donc il s'attendait à ce que l'amour du Seigneur se manifeste dans l'Église. Je pense qu'il est reparti tout seul. Est-ce que quelqu'un n'a pas pu l'inviter ? Vous savez, je pense que c'est une personne qui a vécu le début de la Pentecôte, qui a vécu des choses extraordinaires. Je pense que si vous aviez invité cette personne, que vous l'aviez eue à votre table, il vous aurait richement béni, bien plus que vous pouviez lui en apporter. Parce que cette personne, elle ne pourra pas vous réinviter à son tour. Et c'est ça qu'il faut faire aux plus petits. Pas chercher le cadre supérieur qui va inviter un autre cadre supérieur, hein, c'est ce qui est dit un peu dans la Bible, mais inviter celui qui ne pourra pas vous le rendre. Alors il faut se poser la question sur l'amour. Et là aussi, c'est les ronces, c'est ce qui nous étouffent, qui nous disent, oui, mais je suis occupé, je rentre, il est déjà midi, il faut que je fasse à manger, il faut que je m'occupe de ça, il faut que je fasse ceci, cela. Est-ce que c'est donner un peu d'amour, un peu de joie à celui à qui, vraiment, parce que là, le Seigneur le voit. Un jour, le Seigneur me dira, mais pourquoi tu ne l'as pas invité ? Moi, je me souviens un jour d'avoir un repas en commun, invité un SDF. Et ma table s'est à moitié vidée parce qu'il sentait très mauvais. On était en repas en commun. Et j'ai vu ma table se vider. Les gens ne voulaient pas rester à côté de lui, mais lui, non, il n'est pas comme ça. On n'en est pas à ce stade-là. Mais si on n'a pas l'amour les uns pour les autres dans l'Église déjà, comment le monde va voir qui nous sommes ? Comment le monde va voir cela ? Moi, j'ai fait quelques invitations, pas beaucoup. Bien sûr, si je parle de mes enfants régulièrement, les petits me demandent de venir manger à la maison. Cela, je ne les compte pas, mais il y a d'autres personnes qui sont venues manger à la maison. J'ai reçu d'autres personnes. Est-ce que vous avez reçu des frères ? Est-ce qu'on a le plaisir de passer un peu de temps avec des frères ? Je suis peut-être dur, je sais, je suis dur aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut le dire. Parce qu'il nous est dit de dire la vérité. On doit s'examiner et puis pas continuer à repartir en disant « Oh, c'était un beau message » et continuer sa vie comme elle était avant. Vous savez, les ronces, dans Ésaïe 5, verset 1, alors pour ceux qui ont la bonne Bible, c'est à la page 773. Ésaïe 5, 1. Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur la vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile, il la défonça, ôta les pierres, y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa une cuve, puis il espéra qu'elle produise des raisins. Mais elle produisit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne ? Que je n'ai pas faite pour elle. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produise des raisins, elle produit des fruits infects ? Or donc, je vous ferai maintenant connaître ce que je vais faire de ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai des brèches dans la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine et elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Les ronces et les épines vont l'envahir. Cette parole, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et il a une image de son peuple comme d'une vigne qu'il a pris soin, qu'il en a pris un très grand soin. Le verset 4 nous dit, qu'y avait-il encore à faire pour qu'elle soit pour elle, pour que j'aie espéré qu'elle produise des raisins et elle a produit des fruits infects. Que produisons-nous? On pourrait se poser cette question. Mais si Dieu a fait cela pour son peuple, que fera-t-il de nous si nos fruits sont amers, mauvais? Mais heureusement, bien sûr, on l'a lu tout à l'heure, avec le Saint-Esprit, nous pouvons avoir plein de bons fruits. Dans un autre exemple, c'est dans Matthieu 25. Matthieu 25, versets 35 à 37. C'est ce que je disais tout à l'heure et je l'ai pris quand même, je ne me souviens pas de l'avoir noté. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez recueilli, nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venu me voir, vers moi. Et les juges vont demander, mais quand avons-nous fait ça? Et le Seigneur nous demande encore aujourd'hui de faire la même chose. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui ont besoin d'avoir une visite. Aujourd'hui, la France, c'est un pays spécial, je crois. La France, les gens, quand ils construisent une maison, la première chose qu'ils font, des fois, ils n'ont pas fini de construire la maison, ils vivent dans les plates, comme on dit, la maison n'est pas terminée, ils montent déjà une clôture. La France est le pays de la clôture. La France est un pays de séparation, de murs et de clôture. Je suis chez moi. Il ne doit pas en être comme ça de l'Église. Si vous relisez le début des actes, ils mettaient tout en commun. L'Église telle que vous la connaissez aujourd'hui, c'est une erreur, c'est presque une hérésie. L'Église au début, elle se faisait dans les maisons. Parce que si vous lisez le début des actes des apôtres, ils se sont convertis, ils étaient 3000. Est-ce qu'ils ont trouvé un stade? Est-ce qu'ils ont trouvé une salle de concert? À l'époque, ça n'existait pas. Donc ces 3000 n'étaient pas dans la même maison, même si dans la chambre haute, on avait pu en mettre 120, on était loin des 3000. Donc, ils devaient se réunir par quartier, par maison. Et l'Église devrait être comme ça. On devrait avoir envie de se rencontrer en semaine. On devrait avoir envie de connaître son voisin. Moi, je suis étonné des fois, même quand je parle dans le conseil, je dis, tiens, il y a un tel qui veut faire ça, et je dis le nom de la personne, et on me dit, mais c'est qui ça? Alors moi j'ai du mal dans les prénoms, mais je vois un peu quand même les personnes, heureusement. Mais il me faut un temps pour connaître les prénoms des personnes. Maintenant, Cathy Hugo, je les connais. Et puis sa fille, ben non, toi, j'ai encore du mal. Ton prénom, il va falloir encore du temps. Quant aux filles, ça c'est encore plus dur. Mais je sais où ils habitent. Je connais leurs conditions, je sais qu'ils hébergent. Je sais qu'il y a des frères qui ceci, que cela. C'est vrai que ce que je disais tout à l'heure, je m'excuse d'avoir pas fait beaucoup de visites ce septembre, mais il faut se visiter les uns les autres. L'Église ne peut pas être que le dimanche matin. Ça ne sera pas une vraie Église. On a besoin d'avoir une vie, une communion fraternelle. Je sais que c'est dur parce qu'on est pris. Les ronces, l'Égypte. L'Égypte, où il y a de plus en plus de travail, Lionel et plein d'autres le connaissent, ça, c'est l'Égypte aussi, c'est les ronces, c'est toujours la même chose. On vous étouffe en vous donnant plus de travail, il y a moins de personnes dans l'entreprise, et le travail doit quand même sortir. Vous avez de plus en plus de boulot, vous êtes oppressé, pressé. Il vous faut quand même trouver un peu de temps. Même dans les repas en commun, une fois par mois, nous mangeons ensemble. Il y avait le mariage, donc je n'ai pas mis le repas en commun, heureusement. Mais dans le repas en commun, tant ne viennent pas. C'est l'occasion, quand on mange tous ensemble, qu'on partage ce repas, de se connaître, d'apprendre à se connaître. Si on aime réellement. Que le Seigneur vous aime, c'est bien. Je suis heureux. Mais on doit avoir cet amour les uns pour les autres. Surtout que nous sommes dans un monde qui est difficile, qui devient de plus en plus difficile. Nous avons besoin vraiment d'avoir ce chose, d'avoir ce temps de se connaître. Il y a certains qui disent, tiens, prends ta voiture, on va chez un tel, mais je ne sais pas où il habite. C'est pas normal. Quand on fait partie d'une famille, mes enfants, je les connais tous. Je sais aller chez mes enfants. Je sais où ils habitent. J'ai quelques idées, des projets, de travail, de vie, de choses. On doit mieux travailler cet amour à l'amour qu'on aura. Les dons du Saint-Esprit qu'on a lus tout à l'heure, nous devons les pratiquer, les manifester. Ça est de la vraie Église. Si vous voulez une Église puissante et forte, si vous voulez une Église où vous allez voir des choses extraordinaires se passer, si vous voulez une Église où des signes, des prodiges, des miracles se passent, c'est parce que le Saint-Esprit sera là, parce que le Seigneur sera là, parce qu'il verra l'amour qu'il y aura. Vous savez, quand l'amour est là, waouh, dans un foyer, quand les enfants ils viennent, se jettent dans les bras des papas, des mamans, et ainsi de suite, eh ben, le cœur des mamans fonde. Il y a quelque chose. Mais si on sent un froid, c'est pas bon. À l'amour. Et si la Bible nous dit, si on n'a pas l'amour, on n'a rien. Sans l'amour, il n'y a plus rien. Alors parler l'amour, c'est une chose. Les gens, j'aime bien, même dans le sexe, c'est la même chose. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, puis qui ne le font pas. Et bien, dans la vie des chrétiens, il y a beaucoup de gens, peut-être, qui parlent d'amour, mais qui ne le pratiquent pas non plus. Aimez-vous les uns les autres. C'est les paroles du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je ne demande pas que vous alliez vous suicider pour votre voisin, pour votre frère. Mais peut-être passer un moment avec lui, oui. Voilà ce que je voulais vous laisser comme message. Je lis une réflexion, puisque c'était une réflexion qui était donnée dans ce petit livret qui disait « Considérez votre vie pendant quelques minutes. » On a besoin de temps en temps de faire le point, comme on dit, les pilotes font le point, les navigateurs dans leur bateau font le point. Dans les foyers, on doit faire le point. Avoir des projets, mais des fois faire le point. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on va? Est-ce que c'est réalisable ou pas?